Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. La rediffusion le mardi matin, 10h. Je m'appelle Jean-Noël. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, le 1er juin, on va un petit peu parler de l'actualité scientifique. Pas mal de choses encore à évoquer dans cette émission. Et puis, on écoutera aussi un peu de musique. Il n'y a pas de raison. On est quand même aussi sur une radio musicale, bien sûr. C'est ça, Biotine. Depuis plusieurs années, on essaye de s'informer un petit peu sur ce qui se passe dans les laboratoires du monde entier. Dans tous les domaines, évidemment, on essaye un petit peu de s'informer. Ce qui se passe dans les labos, ça nous concerne directement ou indirectement, mais en tout cas, indirectement dans le sens où des fois, ce n'est pas nécessairement tout de suite que nous aurons les conséquences et les répercussions de ce qui se fait dans les laboratoires, mais dans quelques temps, on aura bien sûr parfois une vraie, au niveau technologie, une vraie incidence sur ce qui se fait actuellement et sur ce qu'on évoque dans cette émission. Voilà, c'est un petit peu le but, essayer de s'informer, essayer de comprendre un petit peu la science qui avance, la science dans tous les domaines bien évidemment, et d'essayer quelque part de s'informer et de prendre part aux débats qui peuvent être des fois mis en place par certains sujets qu'on évoque dans cette émission. Aujourd'hui le 1er juin, mon Dieu, mais ça passe vite franchement. Non mais le 1er juin, il y a des moments où c'est assez étonnant. Au niveau sciences et techniques, alors pas mal de choses, un 1er juin, et assez récemment, en 2012, c'était l'Union internationale de chimie pure et appliquée. Elle approuve le nom de deux éléments chimiques qui ont été découverts peu de temps auparavant, et on attribue donc deux noms pour deux éléments chimiques. Alors l'élément numéro 114, on l'appelle le flérovium, et le numéro 116, on l'appelle le livermorium. Ce sont donc deux éléments chimiques qui avaient été découverts et il fallait quand même les nommer. Et ça a été fait le 1er juin 2012. Le 1er juin 2016, c'est l'inauguration en Suisse du tunnel ferroviaire du Saint-Gothard. 57 km quand même, c'est le plus long tunnel du monde. 57 km, je ne me rends même pas compte. C'est énorme, c'est vrai, effectivement. Et il a été inauguré voilà, il y a 8 ans, donc le 1er juin 2016. Naissance, le 1er juin 1796, de Nicolas Léonard Sadi Carnot, physicien et ingénieur français. Et alors, il a une carrière très très courte, hein, parce qu'il est mort du choléra à l'âge de 36 ans. Et donc, Nicolas Sadi Carnot n'a publié qu'un seul livre, un peu comme Copernic, hein, c'était en 1824. Ça s'appelait « Réflexion sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres à développer cette puissance ». En fait, il a 27 ans et il exprime ce qui va s'avérer être le travail de sa vie et notamment un histoire important dans l'histoire de la physique. Dans cet ouvrage, il va poser les bases d'une discipline qui est totalement nouvelle à l'époque, qui est la thermodynamique. Et à l'époque d'ailleurs, le terme n'existait même pas. C'est William Thomson qui va l'inventer plus tard, au milieu du 19e siècle. Et pourtant, c'est bien Nicolas Sadi Carnot, malgré l'imprécision de certains de ses concepts, qui a découvert cette science aussi fondamentale du point de vue théorique que totalement féconde en une application pratique. Sadi Carnot formula l'exposé raisonné du moteur thermique et les principes de base selon lesquels toute centrale énergétique, tout moteur à explosion ou moteur à réaction est aujourd'hui conçu. Donc c'était vraiment quelqu'un qui avait posé des bases totalement importantes de ce que l'on utilise depuis. Plus remarquable, il n'y avait aucun prédécesseur avant lui qui n'avait encore défini la nature et l'étendue du sujet. Il va s'appuyer sur des préoccupations purement techniciennes, notamment l'amélioration des performances de la machine à la vapeur. Et le cheminement intellectuel de Sadi Carnot est original et il annonce des évolutions importantes qui vont intervenir à cette époque charnière pour la science moderne. Il est donc né le 1er juin 1796 et il est mort à l'âge de 36 ans en 1832. En fait, Nicolas Sadi Carnot, c'est l'oncle de Marie-Françoise Sadi Carnot, qu'on appelle aussi Sadi Carnot. Et en fait, Sadi Carnot, ça nous dit quelque chose. Et on confond les deux. Là, je vous parle du scientifique, du physicien, de l'ingénieur. Et l'oncle, il était donc l'oncle d'un autre Sadi Carnot. Lui, on le connaît mieux. Il avait été élu président de la République à la fin du 19e siècle. Il avait été assassiné en 1894 par l'anarchiste Sante Geromino Caserio. Sadi Carnot, donc une famille prolifique, hein, quelque part. Mais là, c'est bien le physicien qu'on évoque et que que l'on célèbre aujourd'hui. Naissance donc un 1er juin 1796. Décès le 1er juin 1841 de Nicolas Appert, inventeur français. Il est le premier à mettre au point une méthode de conservation des aliments en les soumettant à la chaleur dans des contenants hermétiques et stériles, des bouteilles en verre, puis des boîtes métalliques en fer blanc. Ce sont bien les boîtes de conserve et le principe de ce qu'on appelle l'apertisation. Et ça vient donc de Nicolas Appert. Il crée en France la première usine de conserve au monde. Et il est donc décédé un 1er juin 1841. Voilà pour l'éphéméride de ce 1er juin. Au niveau de l'actualité, alors il y avait une chose que je n'avais pas eu le temps d'évoquer la semaine dernière concernant les intentions de la Russie, des intentions qui interrogent après la découverte de gisements de pétrole en Antarctique. 1959, c'est l'année depuis laquelle l'Antarctique ne peut plus être revendiquée par aucune nation de la planète. Et donc depuis près de 65 ans, ce continent blanc est une terre réservée à la recherche scientifique et à la préservation d'un patrimoine naturel d'exception, ce qui est indispensable à la survie des générations futures. Mais ce statut juridique unique au monde pourrait bien se trouver menacé par la récente mise à jour de vastes réserves d'hydrocarbures par des navires russes. En tout, ce serait l'équivalent de plus de 500 milliards de barils de pétrole qui dormiraient sous le continent de l'Antarctique. C'est plus du double des réserves actuelles de l'Arabie Saoudite, par exemple, pour avoir une estimation. Donc on se dit que c'est assez conséquent. C'est un trésor dangereux qui est situé dans une zone administrée par le Royaume-Uni, qui la revendique aux côtés de l'Argentine et du Chili. Et l'implication croissante de la Chine dans la région complique encore le maintien du statu quo. Les tensions sont donc à leur comble, d'autant que les positions de la Russie sont floues. Alors, on considère que l'or noir a été découvert fortuitement par des navires de recherche et donc les intentions de la Russie, ça soulève des suspicions. Le ministre adjoint des Affaires étrangères britannique, David Rutley, a choisi de faire confiance à la parole russe, mais les experts sont quant à eux autrement dubitatifs. Le contexte, bien sûr, géopolitique tendu, qui est accentué par le conflit en Ukraine et les sanctions économiques contre la Russie, bien, ça alimente les craintes d'un contournement des normes internationales qui pourrait avoir des conséquences dramatiques sur l'environnement. Alors, à craindre en premier lieu, c'est la destruction des écosystèmes. Le bruit des forages et les vibrations peuvent perturber les mammifères marins, les baleines, les phoques, les manchots qui dépendent du son pour se déplacer et communiquer. Les activités perturberaient également les colonies d'oiseaux, ce qui mettrait en péril leur reproduction déjà fragilisée par le réchauffement climatique. Vient ensuite le risque de marée noire, extrêmement dangereuse bien sûr pour les organismes marins et les oiseaux. Des marées noires qui peuvent contaminer des écosystèmes entiers durant des décennies, ce qui va affecter la reproduction et la survie de certaines espèces. Pour certaines, elles sont endémiques, elles sont très rares et ça pourrait peut-être même tout simplement emmener à la disparition de certaines espèces. À cela s'ajoute la chaleur générée sur place par les opérations de forage, ce qui peut augmenter la température locale, ce qui va donc pouvoir éventuellement contribuer à la fonte des glaces. Les produits chimiques qui sont utilisés à cette occasion, qui peuvent également contaminer les eaux environnantes, avoir une incidence directe sur la qualité de l'eau et sur la santé des écosystèmes. Et puis vient enfin l'extraction même de pétrole en Antarctique qui contribuerait aux émissions mondiales de gaz à effet de serre à l'heure où bien sûr la sortie des hydrocarbures ne peut plus être une option. Bref, des perspectives pas si lointaines que ça, puisque le traité de l'Antarctique pourrait être rendu caduque si les activités russes et chinoises se poursuivent dans la région. Une perspective catastrophique pour la planète et pour l'avenir des générations futures. Donc voilà, ce traité sur l'Antarctique qui fait donc de ce continent la seule région au monde complètement pacifiée et dévolue à la recherche et à la préservation de l'environnement est menacée avec ces gisements de pétrole gigantesques qui seraient fortuitement, entre guillemets, découverts par des navires russes. Affaire à suivre, bien sûr, mais effectivement, ça pose question. Ça interroge, bien évidemment, c'est assez... Oui, c'est assez compliqué. Enfin, je dirais effectivement, là, si on est sur des réserves qui sont assez importantes, eh ben, on va peut-être finalement pas passer à côté, vous voyez. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir être assez vigilant pour suivre l'actualité, bien sûr, de cela. Autre information, alors la semaine dernière, on avait pas mal parlé de l'intelligence artificielle, évidemment. En fait, toutes les semaines, on parle de l'intelligence artificielle, on est sur un sujet très actuel, évidemment. Alors, on n'est plus nécessairement sur un sujet purement technique, mais on est de plus en plus sur des sujets économiques, éthiques, on est sur des sujets, voilà, parfois géopolitiques. Et cet article de Futura Science qui pointe du doigt les services de renseignement, qui collectent bien sûr de grandes quantités de données, mais qui ne peuvent pas utiliser les nouvelles intelligences artificielles pour les aider à faire du tri. Impossible de confier des informations classées secrètes à ces intelligences artificielles qui sont connectées au web. Et donc, pour y remédier, on apprend que Microsoft vient de créer sa propre intelligence artificielle entièrement déconnectée d'Internet. Selon l'agence Bloomberg, elle est basée sur un modèle de langage GPT-4 d'OpenAI et a été spécifiquement développé par les services de renseignements américains comme la CIA, nous dit-on. Le système est sécurisé grâce à un système qui s'appelle AirGap. Autrement dit, il est physiquement déconnecté d'Internet. L'idée, bien sûr, c'est de pouvoir empêcher tout risque de piratage des données ultra sensibles. Alors, Microsoft travaille sur cette intelligence artificielle depuis 18 mois et elle fonctionne sur un système de cloud local qui est constitué notamment d'un supercalculateur. On nous apprend que ce supercalculateur est situé dans l'Iowa. Ce modèle de langage est entièrement statique, hein, il n'apprend pas de ses interactions avec les utilisateurs, il ne retient aucune information des fichiers lus, alors cela évite qu'il puisse dévoiler des informations classifiées par erreur. Et on nous dit donc que c'est la première fois que nous disposons d'une version isolée, où le terme isolé signifie qu'elle n'est pas connectée à Internet et qu'elle se trouve sur un réseau spécial qui n'est accessible qu'au gouvernement américain. C'est ce qu'a déclaré William Chappell, le directeur technique pour les missions stratégiques chez Microsoft. Alors, l'intelligence artificielle fonctionne depuis quelques jours, mais elle doit être encore testée et validée par les différents services de renseignement avant de pouvoir être utilisée avec des informations sensibles. Et on estime en tout cas qu'à terme, environ 10 000 personnes devraient pouvoir y accéder, ce qui permettrait de pouvoir, pour les services de renseignement américains, avoir un outil assez performant pour pouvoir l'aider dans ses activités. Alors, c'est assez, comment dire, étonnant, enfin je ne trouve pas le mot, mais là on est sur une intelligence artificielle qui quelque part ne va pas pouvoir avoir un accès à Internet, dans le sens avoir accès à des sources de données diversifiées en grand nombre ou autres. Donc comment elle va pouvoir se développer, comment elle va pouvoir se perfectionner, c'est une vraie question et c'est vraiment intéressant d'un point de vue purement technique, quelque part, de se dire voilà, comment on estime la performance de ce genre d'outil alors qu'il va être totalement isolé, déconnecté. Alors on comprend très bien sûr la raison du fait que ça soit totalement isolé et qu'il n'y ait pas donc de liaison et de connexion à Internet. Parce qu'effectivement, c'est assez facile après de pouvoir y accéder alors que ce n'est pas du tout le but. Mais finalement, comment ça peut fonctionner? Comment ça peut s'améliorer? C'est une vraie question qu'il faudra se poser, bien sûr. On suivra ça. Mais en tout cas, voilà, ça a été communiqué il y a quelques jours. Microsoft qui a créé une intelligence artificielle spécialement pour les services de renseignement américains. Voilà, ça c'était pour l'actualité scientifique. On écoute encore, on écoute un petit peu de musique, pardon, pourquoi je dis encore un petit peu de musique, et puis on va continuer comme ça pendant cette petite heure à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. Vous êtes bien sur Graphite et on écoute Molly Lewis. Thank you. qu'est-ce que ça fait du bien. C'était Molly Lewis avec Mirage sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique. On a démarré cette émission en parlant de l'Antarctique. L'Antarctique qui est encore au niveau de l'actualité sur un autre sujet. C'est un glacier qui n'est pas tout à fait comme les autres. Le glacier Thwaites, surnommé le glacier de la fin du monde ou le glacier de l'apocalypse, pardon, parce que sa fonte a le potentiel de faire monter massivement le niveau de la mer dans le monde. Il fait en effet office de barrage naturel empêchant la glace environnante de glisser vers l'océan et son effondrement ferait ainsi grimper le niveau des océans de plus de 3 mètres. Donc on voit très très bien les conséquences dramatiques qu'il peut y avoir. Et les chercheurs savent que le glacier Thwaites, je ne suis pas certain si on dit vraiment Thwaites, je pense, bon, on va l'appeler comme ça. On sait en tout cas que ce glacier Thwaites fond rapidement depuis les années 80 et aujourd'hui, des mesures radar à haute résolution collectées entre mars et juin de l'année dernière révèlent que l'eau de mer chaude à haute pression s'infiltre jusqu'à sa base, de quoi provoquer une fonte du glacier plus vigoureuse que les glaciologues l'imaginaient jusqu'ici. Et donc, dans la revue Proceedings of the National Academy of Science, des chercheurs de l'Université de Californie racontent que les images qu'ils ont obtenues issues de satellites finlandais montrent que les marées quotidiennes envoient de l'eau de mer chaude à plusieurs kilomètres à l'intérieur du glacier, de quoi faire fondre la glace par le dessous et donc renvoyer en retour de l'eau douce vers l'océan. Jusqu'à présent, certains des processus les plus dynamiques de la nature étaient impossible à observer avec suffisamment de détails et de fréquences pour nous permettre de les comprendre. C'est ce que remarque Michael Wollersheim. C'est le directeur des analyses qui travaille au niveau de l'Université de Californie. Et grâce à une précision vraiment importante, parce qu'on est sur la précision au niveau du centimètre, donc effectivement, c'est assez rigoureux et c'est ça qui est intéressant. Et on est aussi sur des fréquences quotidiennes de relevés d'informations, de relevés de données. Les chercheurs en savent désormais plus sur la fonte de ce glacier, hein, le glacier de la fin du monde comme on l'appelle. Ils en savent, mais ils n'en savent pas encore assez pour estimer combien de temps il reste avant que l'intrusion de l'eau de mer devienne totalement irréversible et entraîne l'effondrement de ce fameux glacier Thwaites. Un effondrement qui s'annonce donc dévastateur pour les communautés côtières du monde entier. Tu m'étonnes, si le niveau des océans grimpe de plus de 3 mètres, on est vraiment sur une catastrophe au niveau international parce qu'il y a des zones côtières qui seront totalement submergées en fait. Et effectivement, ça va être assez compliqué à pouvoir se préserver de cela. C'est un vrai sujet, hein. Vous avez peut-être déjà vu au niveau de certains articles ou dans certains documentaires ou émissions des cartes qui donnent des estimations ou des simulations quand l'eau montrait de façon assez importante au niveau des océans. Et on voit qu'il y a des zones mais partout dans le monde, hein, et notamment en France, mais partout ailleurs également, des zones qui seraient totalement recouvertes d'eau. Et on voit très bien que là, on est sur quelque chose qui va se passer, enfin, je veux dire, sans être totalement ni pessimiste, ni catastrophiste, on est vraiment sur de plus en plus d'indices qui font que on arrivera vers cette issue. La question, c'est quand, en fait. Et cet article explique totalement cela, c'est-à-dire qu'on voit très bien que l'eau de mer s'infiltre de plus en plus dans ce glacier. Quand est-ce qu'on va être dans une phase totalement irréversible ? C'est difficile pour l'instant d'avoir, malgré toutes les informations qu'on a, c'est difficile de pouvoir l'estimer. Mais il se peut que ça soit quand même de façon assez rapide et qu'il faille pouvoir trouver des solutions alternatives assez rapidement. Pour l'instant, on les connaît, hein, ces solutions alternatives, mais est-ce qu'elles sont mises en application ? C'est toute la question, c'est tout le sujet, en fait. Et c'est difficile de pouvoir, pour l'instant, anticiper de façon optimiste ce qui peut se passer au niveau de ce dérèglement climatique. Un autre sujet, alors là on est totalement dans un autre domaine, on est sur le domaine de la médecine. C'est un tout petit article que j'ai trouvé, mais je trouvais assez intéressant au niveau de ce qu'on appelle la neurotechnologie. Et notamment, on va parler de la maladie de Parkinson. Il y a une augmentation des cas de la maladie de Parkinson et on apprend que la science offre un nouvel espoir en matière d'innovation. Il y a une start-up qui s'appelle Charcot Neurotech qui a été fondée par Lucy Young qui a créé un dispositif qui utilise des vibrations à haute fréquence pour réduire les symptômes de la maladie. Alors c'est non invasif et cet objet a déjà équipé des milliers de personnes au Royaume-Uni pour les aider à améliorer leur qualité de vie. Alors en parallèle, il y a des avancées au niveau des neuroprothèses qui existent, hein, neuroprothèses, donc on est vraiment sur des prothèses au niveau neuronal, c'est totalement passionnant, et aussi ce qu'on appelle la robotique molle, ce qui ouvre la voie à des traitements plus efficaces, et si on combine tout ça avec l'intelligence artificielle, on considère que ces technologies pourraient bien contribuer à davantage de prévention de la maladie et aussi à un meilleur accompagnement. Les neurotechnologies constituent un réel espoir, l'idée c'est de pouvoir transformer le quotidien des personnes qui sont atteintes par la maladie de Parkinson. On estime environ à 8 500 000 le nombre de personnes dans le monde atteintes de la maladie de Parkinson. Donc on est quand même sur une échelle assez conséquente, bien évidemment. Et puis, autre sujet, on revient sur le changement climatique qui a eu un impact énorme, notamment sur les animaux sauvages. Et on apprend que l'inverse est aussi vrai. Il y a certaines espèces qui jouent un rôle majeur dans la régulation du climat. Et c'est le cas notamment du bison. Qu'il soit américain ou européen, le bison est considéré comme l'une des espèces les plus importantes à réintroduire, selon l'ONU. Et pour preuve, une expérience qui a été réalisée en Roumanie au cours des 10 dernières années. C'est pas souvent qu'on parle de la Roumanie dans cette émission, donc c'était l'occasion aujourd'hui. Les bisons européens ont complètement disparu de la Roumanie il y a plus de 200 ans. Il y a deux grandes organisations environnementales, WWF et Rewilding Europe, qui ont commencé à réintroduire l'espèce dans le pays depuis une dizaine d'années environ. Et avec 170 individus dans les montagnes actuellement, eh bien, il s'agit de l'un des plus grands troupeaux d'Europe. Et en utilisant un modèle informatique qui a été développé par l'université de Yale pour cerner un petit peu l'impact des animaux sauvages sur le climat, on se rend compte que les chercheurs ont réussi à estimer les conséquences de ce troupeau qui est donc présent en Roumanie. Et donc il y a 170 bisons qui ont brouté sur une surface de près de 50 km². Et grâce à l'action des bisons, eh bien, ces pâturages naturels ont stocké dans les sols 54 000 tonnes de carbone en plus. Ce carbone, hein, bien sûr, hein, qui est à l'origine des principaux gaz à effet de serre. 54 000 tonnes de plus par rapport au même pâturage quand il n'y avait pas de bisons. Donc on voit très bien l'impact positif. En fait, la présence du troupeau de bisons, ça a en fait permis de séquestrer presque 10 fois plus de carbone, voire même bien plus, selon une étude qui a été publiée dans la revue Biogeosciences. Ces 54 000 tonnes de carbone stockées dans le sol correspondent aux émissions de plus de 40 000 voitures américaines, ça nous permet d'avoir une estimation un petit peu de ce qui se fait, ou au corps de 123 000 voitures de type européenne. C'est ça qui est intéressant, ce troupeau de 170 bisons permet de séquestrer les émissions de dioxyde de carbone de plus de 120 000 voitures. C'est quand même assez... Voilà, on est sur des chiffres qui sont assez éloquents, je trouve, et assez intéressants. Alors, la question, c'est de savoir mais comment les bisons ont-ils réussi une telle prouesse, eh bien les bisons broutent toutes les plantes des prairies de manière assez homogène. Et ils permettent ensuite aux végétaux de germer grâce à leurs graines qui sont rejetées dans leur déjection. Et donc certaines plantes ne germent en effet que lorsqu'elles ont été digérées. Et en fait, c'est pas tout, la forme des sabots des bisons, quand même ça fascinant, laboure le sol d'une manière spécifique et ça disperse également les graines. Et les bisons se déplacent de façon assez importante et ils ne font pas de surparturage, on va dire, et leur marche va compacter le sol, ce qui permet au carbone de ne plus s'échapper. En le fait de marcher sur le sol, ça va pouvoir capter, enfin séquestrer entre guillemets ce carbone dans le sol, et en se roulant, on nous dit que les bisons exercent aussi une autre pression sur le sol grâce à leur fourrure qui transporte aussi des espèces végétales. Donc en fait, à eux seuls, ils arrivent à labourer le sol, à disperser les graines, de faire en sorte que ces graines puissent germer, et puis après ils vont pouvoir tasser le sol entre guillemets pour que le carbone soit séquestré et ne puisse pas avoir ne puisse pas s'échapper. Les bisons, en fait, on va les considérer comme des héros du climat, et leur réintroduction entre directement dans le concept des solutions qui sont fondées sur la nature. Il s'agit d'un ensemble de solutions qui sont totalement naturelles, bien sûr, qui permet d'agir sur le changement climatique et ses conséquences. Les chercheurs expliquent que la présence des bisons permet de rétablir un équilibre qui avait été perdu depuis 2 siècles en Europe. Et donc, pour les auteurs de cette étude, ces conclusions dépassent toutes les attentes. Elles sont la preuve ultime de l'urgence qu'il y a à réintroduire en masse les grands mammifères en Europe. Voilà, c'est assez intéressant de voir que ce troupeau de 170 bisons permet de séquestrer la pollution au dioxyde de carbone d'un nombre incroyable de véhicules pendant un an. C'est quand même assez fascinant. Quelque part, voilà, on n'aurait jamais pensé ça, hein, finalement. Je sais pas, je trouve que cette information elle est assez intéressante. Mais c'est ça, un biotine, on feuillette comme ça la revue de presse d'actualité scientifique, on apprend plein de choses et des choses parfois surprenantes. Et en plus, on écoute de la musique. Trop facile. We'll be right back. Isobel, c'était High Tone sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez tous les samedis sur l'antenne de Graphite Biotine, l'émission d'actualité scientifique. Vous nous suivez sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Bien évidemment, vous avez la possibilité de pouvoir récupérer tous les podcasts de toutes les émissions de Graphite sur le site internet graphite.net. Et bien sûr, vous nous suivez, en tout cas vous suivez l'actualité de Graphite sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, entre autres, bien évidemment. On va continuer à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique et je n'ai absolument aucun fil rouge ou aucun fil conducteur dans cette émission. On feuillette comme ça et on passe d'un sujet à l'autre et puis finalement, c'est peut-être pas plus mal parce que comme ça, ça nous, je sais pas, ça nous donne un petit peu accès à pas mal de sujets et on va parler d'énergie et de chaleur. Pour fondre l'acier ou cuire le ciment, il faut de l'énergie, beaucoup d'énergie, sous forme de chaleur, une chaleur qui jusqu'ici reste produite grâce à des combustibles fossiles, une chaleur qui ne représente pas moins de 25% de toute l'énergie consommée aujourd'hui dans le monde. Une chaleur réputée difficile à décarboner, bien évidemment, à tel point qu'elle est citée parmi ces émissions qu'il nous faudra compenser par des mesures d'élimination du dioxyde de carbone de l'atmosphère. Il y a des petits réacteurs nucléaires modulaires, les SMR de quatrième génération, qui pourraient toutefois réussir à la produire sans émission de dioxyde de carbone. Mais ces petits réacteurs nucléaires sont encore en cours de développement. Alors, les chercheurs continuent d'explorer d'autres pistes, comme celle des systèmes solaires à concentration. Ah tiens, des systèmes solaires à concentration. On en sait un petit peu plus dans le journal De Vice. Il y a des physiciens de l'École Polytechnique Fédérale de Zurich qui expliquent qu'ils sont parvenus à produire une chaleur supérieure à 1000 degrés Celsius à partir de l'énergie solaire. En fait, à la base du système, ce sont des miroirs très classiques, qui orientent et concentrent les flux de photons. Les photons, ce sont les particules lumineuses. Et ce type d'installation, c'est déjà connu pour être en mesure de fournir une chaleur qui approche les 1000 degrés. Mais pour la rendre plus efficace, les chercheurs suisses ont imaginé un dispositif de piégeage thermique constitué d'une tige de quartz qui est attachée à un disque de silicium opaque. Et si on l'expose à un rayonnement concentré équivalent à celui de 136 soleils, hein, effectivement, on se dit que c'est assez étonnant, le disque peut atteindre et dépasser les 1000 degrés Celsius. Donc c'est assez fascinant. Les physiciens de Zurich explorent les capacités d'autres matériaux semi-transparents à piéger ainsi la chaleur de notre Soleil. Parmi les fluides et les gaz testés, certains ont permis d'atteindre des températures encore supérieures, donc c'est quand même assez fascinant. L'énergie solaire est facilement disponible et la technologie est déjà là. Pour vraiment motiver l'adoption par l'industrie, nous devons démontrer la viabilité économique et les avantages de cette technologie à grande échelle. C'est ce qu'expliquent les chercheurs, bien sûr, parce que là, on est quand même quelque part sur un dispositif unique, réduit, entre guillemets, enfin, quand j'y réduis, on n'est pas sur de la grande échelle, en clair. Et si on est dans une application au niveau des processus industriels, effectivement, il va falloir à un moment faire en sorte qu'on puisse transposer cette technologie sur une échelle un peu plus grande. Si ça marche, si ça fonctionne, alors là, on est quand même sur des solutions qui sont assez, assez intéressantes, bien évidemment, parce que ça permettrait justement ce processus de décarbonation. Bien évidemment, pour l'instant, produire de la chaleur, c'est produire du dioxyde de carbone, tout simplement. Donc, c'est assez compliqué de trouver des solutions alternatives et qui peuvent être justement totalement vertueuses. Une piste, voilà, qui est proposée par cette équipe de physiciens de l'École Polytechnique de Zurich. Bah écoutez, on suivra ça, bien sûr, et on verra un petit peu ce que ça peut donner par la suite. Autre sujet, et je vous emmène cette fois au sud-ouest de l'Angleterre. Nous sommes en plein centre d'Exeter. Il y a une cathédrale qui a ouvert ses portes en l'an 1400 un lieu bien sûr chargé d'histoire que des équipes d'archéologues fouillent depuis maintenant plusieurs mois pour anticiper la construction imminente d'une nouvelle galerie dans le cloître. Et donc il y a des travaux d'excavation particulièrement réussis qui a été mise en place parce qu'ils ont permis d'exhumer une importante quantité d'artefacts qui datent de l'ère romaine. Il y a plusieurs structures qui laissent à penser qu'une importante place forte aurait été établie sur le site de la cathédrale au 1er siècle. Ce 1er siècle est une ère de conquête pour l'Empire romain qui est notamment dirigé par Claude. Nous sommes entre l'an 41 et 54 après Jésus-Christ. Et en l'an 43, les légions de Rome mettent le cap sur l'Angleterre, presque 100 ans après les tentatives infructueuses qui avaient été menées par Jules César, et vont rencontrer une résistance parfois abrupte face aux autochtones. Les Romains vont établir plusieurs forts qui vont pouvoir accueillir les nombreuses troupes, et Exeter aurait donc été un lieu important, choisi par les autorités locales pour établir l'un de ces forts destinés aux légionnaires. Les éléments qu'on a donc pu essayer de recueillir permettent aux chercheurs d'estimer une date probable de construction entre l'an 50 et 75 après Jésus-Christ. On est quand même quelque part, je trouve, sur une finesse de l'estimation qui est quand même assez bluffante. Il y a une longue structure qui pourrait notamment être un baraquement pour accueillir les soldats. Une découverte qui a été détaillée dans un communiqué qui a été publié il y a quelques semaines sur le site de la cathédrale d'Exeter. Donc vous pouvez regarder sur le site et ça vous permettra d'en savoir un petit peu plus sur ce sujet. En tout cas, pour les archéologues, la bourgade et les environs de la cathédrale étaient un lieu important parce qu'on avait déjà retrouvé dans les années 1970, on avait retrouvé des bains à quelques dizaines de mètres des baraquements. Donc, quelque part, on n'est pas nécessairement surpris par le fait d'avoir trouvé un fort romain datant de la conquête de l'Angleterre qui a été donc découvert sous cette cathédrale d'Exeter. Regardez sur le site internet et vous verrez des superbes images, notamment pour ceux qui sont intéressés par l'archéologie. On reste sur Terre où la matière organique, elle est un peu partout. Alors, dans les sols, bien sûr, mais aussi dans les strates formées par les roches sédimentaires anciennes. Donc là, on est sous le sous-sol, entre guillemets, à laquelle ces roches, on les associe parfois à une couleur noire. Cette matière organique, c'est un petit peu la couleur noire que l'on a quand on fait des fouilles au niveau des roches sédimentaires, parce que on est sur la décomposition des organismes vivants qui peuplent la Terre depuis plus de 3 milliards d'années. Donc cette décomposition, c'est ce qui va donner cette couleur noire, hein, la décomposition des arbres, des feuilles, des animaux également. La matière organique se présente ainsi sous la forme d'une multitude de composés carbonés qui regroupent des molécules principalement constituées de carbone et d'hydrogène. Et étant donné l'importance de la biomasse terrestre, il n'est donc pas étonnant de retrouver de la matière organique dans tous les milieux. Et ça l'est beaucoup plus sur Mars, par contre, là où il n'y a aucune trace de vie qui, pour l'instant, n'a été retrouvée. Et pourtant, eh bien sur Mars, paysage aride, paysage poussiéreux, le rover Curiosity a bien détecté des traces de matière organique. Alors ça, c'est une information qui est quand même assez fascinante. Pas n'importe où, dans les anciens sédiments qui sont déposés au fond d'un cratère, lorsque celui-ci était occupé par un lac. Donc au fond d'un lac, il y a environ 3 milliards 800 millions d'années, hein. Donc c'était pas hier, mais il y avait un lac, et donc dans le fond de ce lac, on a découvert de la matière organique. C'est justement là où on espère un jour découvrir un indice que la vie se soit temporairement développée sur Mars. Et donc, cette annonce, ça relance un petit peu tous les espoirs, parce que on se demande, mais si ces molécules organiques avaient pour origine une activité biologique comme sur la Terre, c'est toute la question. Alors, il y a une nouvelle étude qui vient finalement de répondre à cette question, malheureusement par la négative. Il faut dire que l'espoir était bien mince, hein, parce que la matière organique découverte sur Mars est significativement différente de celle sur Terre. On caractérise en effet la matière organique par un différentiel entre deux éléments carbone, le carbone 13 et le carbone 12. sur Terre, l'abondance du carbone 13, c'est en fait le carbone qui est utilisé par l'activité biologique. Il est quand même plus important. Et sur Mars, il est nettement plus faible. Et cette différence indique que la matière organique sur Mars aurait une autre origine. Donc ce ne serait pas une origine biologique, mais une autre origine. Alors la question, c'est laquelle, en fait, évidemment. Dans un article publié dans la revue Nature Geoscience, une équipe de chercheurs montre que dans l'atmosphère de Mars, il y aurait un dioxyde de carbone qui absorbe préférentiellement les radiations ultraviolets du Soleil, ce qui entraîne la dissociation de la molécule de dioxyde de carbone, et ce phénomène qui se produit également sur Terre, il n'y a pas que sur Mars, serait pour conséquence de laisser derrière lui une atmosphère enrichie en dioxyde de carbone avec le carbone 13 à l'intérieur. Et donc dans l'atmosphère réductrice de Mars, il y aurait une réaction qui aurait permis de former des composés organismes simples, comme par exemple du formaldéhyde ou des acides carboxyliques. Et ces composés organiques se seraient dissous dans l'eau. On a dit qu'il y avait de l'eau sur Mars à l'époque, notamment dans ce lac, et serait ensuite un petit peu entré dans la composition des sédiments. Donc, considère quelque part que l'origine de cette matière organique martienne, ça serait une origine atmosphérique et non pas une origine biologique d'après ces découvertes. Mais c'est totalement fascinant parce que on a encore des découvertes sur Mars et puis on n'a pas fini. Enfin, je ne sais pas combien de fois je dis que cette décennie 2020 va être fascinante d'un point de vue spatial parce qu'on va apprendre, on va déjà faire pas mal de choses d'un point de vue technologique, on est en train de faire pas mal de choses, mais on est aussi en train d'apprendre énormément de choses sur ces planètes et quelque part on en apprend énormément sur nous, sur notre planète Terre. Et donc là, on est sur une découverte donc de l'origine de la matière organique sur Mars. Ça ne serait pas d'origine biologique. Quand on parle de biologie, on parle du vivant. Le bio, c'est le vivant. Donc ça ne serait pas d'origine biologique. Donc ça ne serait pas en clair des organismes vivants, quels qu'ils soient, qui se seraient dégradés, qui auraient donc été après décomposés et qu'on aurait trouvé dans ces sédiments. Non, apparemment, on estime que c'est une origine plutôt atmosphérique avec le dioxyde de carbone au niveau de l'atmosphère. C'est assez fascinant, je ne sais pas, mais là on est, je ne sais pas, on a l'impression qu'on tourne autour d'un gros point d'interrogation et on essaye de plus en plus de soulever le voile et semaine après semaine, on apprend pas mal de choses évidemment. Allez, on va encore écouter un petit peu de musique et puis on arrive tout doucement mais sûrement vers la fin de cette émission. Vous êtes bien sur Graphite. Allez, un peu de musique, à tout de suite.
I'm
Whatever Fits Together. C'était School Crusher sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Butine tous les samedis entre 12h et 13h. On se tient informé de l'actualité scientifique sur différents sujets. C'est ça qui est intéressant. Alors, on parlait de Mars. On va continuer à parler de Mars. Et on va parler un petit peu maïs, haricots et courges. Ceux qui jardinent un peu connaissent certainement cette technique de culture amérindienne qui consiste à associer plusieurs plantes d'espèces totalement différentes qui vont alors pousser en symbiose, chacune bénéficiant d'un apport de l'autre. Et si cette pratique est souvent mise en œuvre pour les petits potagers familiaux, elle pourrait l'être également dans de futurs potagers, notamment sur Mars. Dans l'optique d'une exploration de la planète rouge par l'homme, les chercheurs tentent en effet de résoudre l'épineux problème de la nourriture, car impossible d'importer, bien sûr, toutes les ressources nécessaires pour un séjour de plusieurs mois, voire plusieurs années, bien sûr. La solution serait donc de faire pousser directement les légumes sur place, sauf que la terre sur Mars ou le régolithe martien, acide et pauvre en nutriments, c'est pas forcément propice à la culture. Et donc la question, c'est de savoir comment on peut exploiter au mieux ces ressources limitées. Eh bien, la réponse pourrait donc se trouver dans cette technique de culture développée par les fermiers mayas. Une nouvelle étude qui a été publiée dans la revue PLOS ONE montre en effet que l'association petits pois, carottes, tomates serait particulièrement intéressante parce qu'individuellement, chacune de ces plantes a présenté des capacités à pousser justement sur Mars, mais leur association aurait notablement favorisé la croissance des tomates. Les carottes et les petits pois auraient quant à eux souffert de l'absence d'une bactérie qui s'appelle Rhizobium leguminosarum, qui aide habituellement la plante à fixer l'azote au niveau des racines. Et les conditions difficiles qui sont offertes justement sur Mars freineraient en effet le développement de ces bactéries. Donc pour les chercheurs, les résultats sont cependant positifs et montrent qu'une association réfléchie d'espèces ainsi qu'un apport ciblé visant à améliorer les qualités donc du régolithe sur Mars pourrait permettre d'optimiser la production de nourriture sur Mars. Donc voilà, on va tester ça et c'est totalement intéressant. Effectivement, c'est un vrai défi. Faut pas se leurrer. Si on veut aller sur Mars et surtout y rester, il va falloir avoir les solutions pour nous permettre de pouvoir développer la culture sur place. Pour l'instant, on n'a pas nécessairement encore bien trouvé, mais on a des pistes très sérieuses et très intéressantes, bien sûr. Alors, on va parler cette fois de technologie de batterie. Le géant chinois de la batterie automobile, qui s'appelle CATL, vient de dévoiler un premier modèle lithium-fer-phosphate. L'idée, cette batterie est capable de dépasser les 1000 km d'autonomie. Alors ça, c'est intéressant, 1000 km d'autonomie. Et comme cela ne suffisait pas, il est aussi compatible avec une nouvelle forme de charge ultra rapide. Alors, CATL est aujourd'hui le plus grand fabricant au monde de batteries lithium-ion pour les véhicules électriques. D'où l'importance de cette annonce qui est intervenue il y a quelques semaines dans le cadre du salon automobile de Chine à Pékin. Cette batterie qui s'appelle Shenzhen Plus est la toute première capable de dépasser les 1000 km d'autonomie. Elle est également très rapide à charger et cette batterie offre aux utilisateurs une très grande autonomie, plus que l'équivalent d'un aller-retour entre Paris et Londres. Donc c'est vrai que c'est quand même assez intéressant. Le but est bien évidemment de pouvoir parcourir de longues distances sans avoir à se préoccuper de trouver régulièrement un point de charge. Pour arriver à un tel niveau d'autonomie, la cathode de cette batterie a été conçue afin d'obtenir la plus grande densité énergétique possible. Son boîtier monobloc optimise quant à lui l'utilisation de l'espace interne pour un niveau de densité énergétique, là encore, sans précédent, dépassant pour la première fois le seuil des 20 kilowatts par kilo, des 20, pardon, 200 watt-heure par kilo, excusez-moi, ce qui conduit en fait donc à cette autonomie de plus de 100 km par cycle de recharge. Donc ça, c'est quand même totalement intéressant, bien évidemment. Et comme on vous le disait, il y a cette idée de charge, de recharge ultra rapide qui a été également développée par ce géant chinois Ketel, qui permet de parcourir près de 600 km en seulement 10 minutes de charge. On charge la batterie pendant 10 minutes et on peut faire 600 km. Et bien alors là, on va regarder le véhicule électrique d'un œil différent, vous voyez. C'est assez intéressant. En fait, on a l'idée de, justement, de pouvoir parcourir 1 km par seconde de charge. Donc c'est quand même assez impressionnant. Pour cela, le fabricant a pris soin d'élargir la zone de surintensité des bornes afin de dissiper rapidement la chaleur pendant la charge à haute intensité. Alors, en plus de la production donc, de ces nouvelles batteries, eh bien, cette entreprise Ketel va se lancer dans la construction d'un réseau de recharge ultra rapide. Ces batteries devraient rapidement équiper des futurs modèles de voitures chinoises et Ketel a prévu de réunir dans un club les différents propriétaires de véhicules à charge ultra rapide en leur offrant des services d'assistance routière, d'inspection, d'entretien des batteries, pas mal d'autres services. Évidemment, derrière, il y a un aspect économique. Il faut toujours avoir à l'esprit qu'il y a très souvent un aspect économique derrière les informations scientifiques qu'on évoque dans cette émission. La barre symbolique des 1000 km d'autonomie franchie laisse augurer d'une nouvelle ère de la charge ultra rapide pour l'ensemble de l'industrie. Donc là, c'est les Chinois qui communiquent là-dessus. Mais on voit très très bien que, on assiste très très bien à un essor véritablement important de la batterie électrique pour les véhicules. Et jusqu'à maintenant, il y avait deux handicaps pour ces batteries. C'était l'autonomie et le temps de recharge. Et bien là, avec cette solution, effectivement, on regarde d'un autre œil et on attend avec impatience ce qui va être annoncé par d'autres constructeurs, bien sûr. C'est une nouvelle ère de l'automobile qui est en train de s'ouvrir à nous. Et on voit de plus en plus avec les annonces qu'on découvre dans cette émission. Et on voit très très bien que maintenant, ça va être imminent, en fait. Là, on n'est plus sur du futur. Là, on est vraiment sur quelque chose qui va commencer à se développer à grande échelle. Alors, c'est les Chinois qui ont développé ça pour l'instant. Mais évidemment, on sait très bien qu'il y a d'autres constructeurs qui sont également en train de faire de la recherche et développement dans ce domaine. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Profitez bien de ce samedi. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. On va continuer comme ça à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. Je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve samedi prochain. À bientôt. Merci de votre fidélité. Au revoir.